FM en mode hors les murs. La radio News FM part à la rencontre de la vie locale. Jeudi 23 et vendredi 24 juin 2022, c'est le forum des métiers de la transition écologique à l'Alpexpo Grenoble.
Bonjour à tous, c'est Myriam au micro de News FM. Je vous ai rejoint puisque Christophe et Grégory ont été faire un tour dans le salon. Donc aujourd'hui, pour le deuxième jour d'affilée, News FM est en direct du Forum des métiers de la transition écologique. Et aujourd'hui, je reçois Carla Monfray du campus transfrontalier de construction durable. Bonjour Carla.
Oui, bonjour.
Carla, est-ce que pour commencer, vous pouvez nous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est ce campus et qu'est-ce que vous y faites, vous, personnellement ?
Ce campus, on appelle ça des campus des métiers et qualifications dans le domaine de la construction durable innovante. Moi, en particulier, je dirige le campus opérationnellement. Donc, je travaille avec un réseau de partenaires qui œuvrent avec moi pour promouvoir les métiers du bâtiment. Et également pour former des enseignants à tout ce qui est évolution réglementaire, d'innovation dans le bâtiment, donc tout ce qui est lié à la modularité des bâtiments, l'usage de matériaux biosourcés, géosourcés, la recyclabilité des matériaux qui doit être intégrée dès la conception. Et donc je fais ça au niveau des territoires du Nord-Isère et du Genevois français. Donc on va jusqu'au lycée Jean Monnet à Annemasse qui porte ce campus. Et avec une approche transfrontalière, c'est-à-dire qu'on a des personnes qui vont se former en France et qui après vont travailler en Suisse, donc des transfrontaliers, ce qui arrive dans différents métiers, dont celui du bâtiment.
Alors, d'abord, je vais saluer Sana, parce que c'est vrai qu'il est là autour de la table. Coucou, Sana.
Ouais, je suis là. Ça va, Myriam? Bonjour, tout le monde. Je suis là. J'étais pas là pour passer à la radio, mais ça me fait plaisir quand même. Merci beaucoup. Je serai là. Peut-être j'aurai quelques questions au fur et à mesure de la discussion. Et puis on verra.
Ok, super Sana. Carla, vous me parliez tout à l'heure du fait qu'il y avait une pénurie de main-d'œuvre dans le bâtiment. Est-ce que vous pouvez un peu m'expliquer déjà c'est quoi l'ampleur de cette pénurie, quelles difficultés ça occasionne, et aussi comment on explique en fait qu'il y ait peu de gens qui aient envie de travailler dans le bâtiment ?
En termes de pénurie, ça se justifie par des départs à la retraite. Donc il y a presque 300 000 personnes qui devraient partir à la retraite bientôt. Donc ça veut dire qu'il manquera ces compétences. Donc les jeunes aujourd'hui, ils sont plus attirés par tout ce qui est lié au numérique. Donc ils passent beaucoup de temps derrière leurs écrans à regarder des choses diverses et variées. Et les métiers manuels, c'est vrai qu'ils attirent moins la jeunesse. C'est des métiers un peu durs, on va dire, mais ça s'améliore parce qu'il y a des conditions qui les entreprises mettent en place, comme des horaires aménagés, des matériaux parfois qui sont moins pénibles à manipuler. Donc on essaie d'attirer les jeunes vers des métiers manuels. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de travail. Donc ceux qui aiment moins faire des études très longues, donc ils peuvent aller rapidement trouver un emploi. Donc ça dans la partie des charpentiers, des menuisiers, des maçons, il en manque beaucoup. Néanmoins, il manque aussi des ingénieurs. Donc on entend les entreprises dire qu'il manque aussi
des ingénieurs en construction.
Voilà, des ingénieurs dans le bâtiment, dans les bureaux d'études. Donc ce sont des postes où les gens y restent, mais pas très longtemps. Donc du coup, ça il faut se poser des bonnes questions. Pourquoi ça arrive? Et c'est pas évident. Parce que c'est compliqué.
Carla, tout à l'heure, vous me parliez justement aussi de la concurrence. Alors, vous parliez de ce phénomène où des gens vont se former au bâtiment en France, puis ensuite aller travailler en Suisse. Comment vous expliquez en fait le fait qu'ils aillent plutôt, qu'ils passent la frontière pour aller travailler ?
Parce que dans ces métiers-là, comme dans beaucoup de métiers, un salaire d'un maçon en Suisse, il est trois fois supérieur à celui qui est payé en France.
D'accord. Et comment vous faites en sorte sur le campus transfrontalier, déjà quel type de public vous recevez, et puis comment vous leur présentez le métier, comment vous essayez de leur donner envie finalement de s'engager dans la filière du bâtiment?
Donc avec des partenaires tels que le Pôle emploi, les missions locales, la Fédération du bâtiment dans les différents territoires, par exemple la CAPEB, On organise des initiatives auprès dès le collège. Donc ici aujourd'hui on a des sixièmes, mais nous on, quand on en vient intervenir c'est plutôt en quatrième, troisième, parce qu'ils commencent à préparer leur parcours d'orientation. Donc s'ils n'ont pas eu l'occasion par ailleurs de découvrir ces métiers, on vient leur montrer. Voilà ce que je disais tout à l'heure, pas que les métiers manuels, même si c'est ceux-là vraiment qui, où il y a plus de pénurie de main-d'œuvre, mais aussi qui peuvent évoluer dans différents secteurs en faisant des études supérieures. Et à savoir que ces métiers sont très pluridisciplinaires. C'est-à-dire on commence en tant que menuisier, mais on peut vraiment faire des choses très variées parce qu'on peut être dans un gros chantier où on va travailler avec différents corps de métiers et apprendre aussi des choses différentes, des façons de travailler différentes.
Je pense qu'il y a quelque chose qui peut être assez mystérieux. Il y a beaucoup d'images et de représentations sur les métiers du bâtiment. À quoi ça ressemble en fait aujourd'hui de travailler dans le bâtiment? Est-ce que c'est pénible? Est-ce qu'on porte beaucoup dans le bâtiment?
Oui, ça me comporte encore beaucoup. Et c'est quelque chose qui devrait être amélioré au niveau des organisations professionnelles, de faire en sorte qu'il y ait moins de ports de charge, parce qu'aujourd'hui, ça existe des technologies, des robots qui existent déjà dans les entrepôts où on traite des gros colis, etc. Donc pourquoi pas apporter ces robots, ces machines pour porter des gros sacs de ciment, même s'ils sont réglementés pour moins lourds. Mais bon, les gens qui travaillent dans la maçonnerie, ils ont encore apporté parfois des matériaux trop lourds. Mais il y a d'autres technologies, il y a des exosquelettes pour porter. Donc il y a des technologies qui se développent. Après, ce ne sont pas toutes les entreprises qui peuvent investir dans ce genre de technologies. Mais petit à petit, pour que les jeunes ils viennent dans ces métiers-là, je pense qu'il faut réduire la pénibilité associée.
Aujourd'hui, comment fonctionne le secteur, puisque il y a quand même une pénurie de main-d'œuvre qui devrait s'accroître avec le nombre de départs à la retraite. Tout à l'heure, vous parliez de 300 000 personnes qui vont partir à la retraite, c'est ça?
En Auvergne-Rhône-Alpes. Je parle de la région.
Ah, en Rhône-Alpes.
Estimative, oui.
D'accord. Donc, comment le secteur s'adapte? Comment on trouve finalement cette main-d'œuvre pour pouvoir poursuivre les chantiers et faire en sorte que le travail soit quand même effectué?
Il y a beaucoup d'initiatives qui sont organisées, donc pas que l'éducation nationale, donc il y a le Pôle emploi, il y a les missions locales et des fédérations. Il y a des campagnes actuellement à la télé par la Fédération française du bâtiment qui montrent des vidéos pour stimuler à ces métiers qui existent et pour voir si on a, comme ils ont fait avec d'autres métiers, de l'armée, etc. Donc aussi les métiers du bâtiment passent à la télé pour voir si les jeunes ils s'y intéressent.
Oui,
peu comme Masterchef, voilà, ce genre de choses.
Mais je me souviens d'ailleurs que Kelly, alors je ne sais plus son prénom, mais c'est le nom d'une TikTokeuse qui fait du carrelage et qui a été aussi choisie pour faire partie des ambassadeurs du secteur du bâtiment national. Est-ce qu'aujourd'hui ça marche tout ça? Que vous disent les jeunes que vous rencontrez sur le campus transfrontalier?
Il y en a beaucoup qui veulent être architectes. Donc ça fait rêver beaucoup de jeunes. Après tout ce qui est manuel, ça dépend. Il y en a qui ont les parents qui travaillent dans ce secteur et qui disent non, ça c'est pas pour moi, je veux pas le faire. Il y en a d'autres qui connaissent quand même les métiers et qui s'y intéressent. Donc après c'est quand on fait des initiatives, la problématique c'est qu'on sait pas derrière dans quoi ça va déboucher parce qu'on les suit pas forcément dans leur parcours. Après c'est des enseignants derrière qui ont ce travail de les accompagner. Après, au niveau de l'éducation nationale, il y a des statistiques qui sont faites pour chaque établissement pour savoir comment sont remplies les formations.
D'accord.
Et en les analysant, on peut avoir une idée de voir s'il y a des candidats ou pas. Donc, c'est ça le problème, il n'y en a pas assez.
Et ça fait combien de temps que vous travaillez, que ce projet-là existe, le campus transfrontalier?
Le campus, il existe depuis 2018. Moi, à titre personnel, j'ai rejoint le campus en septembre 2020. Donc ça fera bientôt 2 ans que je suis dans ces domaines-là.
Et qu'est-ce que vous faisiez avant?
Avant, j'ai travaillé 3 ans dans un bureau d'études. Je faisais des études d'impact environnemental.
Sur la construction toujours?
J'étais dans un groupe qui faisait de la construction, un peu de l'équivalent de Bouygues. Je travaillais à l'époque au Portugal. Et après, je suis venue en France et j'ai rejoint le groupe Lafarge, qui s'appelle aujourd'hui Holcim. Et j'ai travaillé dans le secteur des matériaux de construction. Donc dans le centre de recherche et innovation qui est basé à Saint-Quentin-Fallavier. Et aussi dans le domaine de la co-incinération de déchets en cimenterie, tout ce qui est lié à l'écologie industrielle dans dans les cimenteries.
Alors donc, si je comprends bien, vous-même, vous travaillez dans le bâtiment?
Oui, tout à fait, dans le secteur du matériau.
Est-ce que vous pouvez parler de votre expérience à vous, Carla? Pourquoi vous avez choisi ce secteur-là et qu'est-ce que vous y avez trouvé, mais vraiment de manière très personnelle?
Dès que j'ai sorti de l'école, j'étais très attirée par l'industrie. Donc j'aime bien aller voir le terrain, aller voir les chantiers, pas forcément y rester. Mais j'aime beaucoup aller voir des structures, que ce soit industrielles. Donc j'ai commencé ma carrière à regarder des industries agroalimentaires. Après, je suis passée par d'autres secteurs et j'ai atterri dans le secteur cimentier, où je visitais beaucoup les cimenteries, les bétonnières, les centrales à béton. Mais voilà, c'est quelque chose qui... J'aime beaucoup aller voir le terrain, voir comment ça se passe dans le concret, pour pouvoir ensuite transmettre cette connaissance.
Mais on voit quoi justement sur un chantier, dans une usine de ciment? À quoi ça ressemble?
À quoi ça ressemble? C'est très industriel. Normalement, c'est près d'une carrière forcément, parce que pour faire du ciment, on a besoin de matières premières qui vont arriver ensuite en cimenterie et arriver dans un grand four qui est chauffé à 2500 degrés. Et après, on va produire le clanquer et ensuite le ciment qui va être utilisé pour faire du béton.
Donc, vous, qu'est-ce que vous faites exactement? Vous observez... Sana, tu voulais poser une question.
Vas-y, après, je poserai ma question.
Super, désolé,
Sana. Dès que tu
me
donneras la parole, il n'y a pas de souci. C'est toi qui pilote.
J'étais trop concentrée.
bien, c'est très bien.
Vous expliquez, vous travaillez en bureau d'études. Qu'est-ce que vous faites exactement dans ce processus de construction, vraiment pour essayer de comprendre, vous, votre métier, ce que c'est?
Oui, mon métier, à la base, je suis ingénieure en environnement. Et quand je travaillais en bureau d'études, j'étais pas dans le domaine de la construction. Je faisais des études d'impact environnemental, donc pour les lignes aériennes de distribution d'énergie, pour les stations de traitement de déchets. Donc, voilà, le dimensionnement des structures. Et dans ce groupe-là, on construisait aussi des ponts, des stades, des gros projets d'infrastructure. Et pour construire ces projets-là, parfois, on a besoin aussi de faire des études d'impact environnemental. Donc, c'était mon domaine. Je travaillais dans des équipes pluridisciplinaires à l'époque pour faire ce genre d'études.
D'accord. Arsène, yes. Vas-y.
Voilà. En tout cas, moi, je suis quand même intéressé par votre profil professionnellement, mais aussi en tant que femme.
Ouais.
Voilà. Est-ce que les femmes, elles sont quand même un peu représentées dans ce métier-là? Ou pas du tout? Et sinon, comment vous faites, puisque vous avez quand même une très belle expérience là-dedans, tu vois, et comment faire pour attirer les femmes vers ces métiers-là, en fait?
Je trouve que je suis portugaise, hein, donc je n'ai pas fait mes études ici. Et chez moi, on parle moins de ces problèmes de stéréotypes.
D'accord.
Donc, d'ailleurs, j'avais eu le commentaire.
C'est-à-dire, au Portugal, là-bas, les femmes, elles sont... C'est la même chose que les hommes au milieu du bâtiment dans le BTP.
Pas la même chose, mais non. On se met moins de francs, je pense. Ici en France, c'est mon ressenti, il est peut-être faux, mais c'est ce que je ressens. Et j'ai eu le retour de quelqu'un qui travaillait dans un concurrent de Lafarge à l'époque.
En France ?
Il était en France et il est parti au Portugal visiter des cimenteries portugaises. Et il m'a fait le retour en disant qu'il y avait beaucoup de femmes en direction d'usines au Portugal, ce qui n'était pas le cas ici en France, et ce qui est une vérité. Et j'ai jamais ressenti dans mon parcours au Portugal des stéréotypes, cette segmentation de profils. Ici en France, on dit que les métiers du bâtiment, les métiers scientifiques, technologiques, ils sont ouverts aux femmes. Et je trouve qu'il n'y a aucun frein, je veux dire, à part. Si on le veut, on y arrivera. Et quand je suis arrivée chez Lafarge, donc c'est une société très masculine quand même, j'ai jamais senti de discrimination aux femmes. Mais j'ai le souvenir d'une formation où on se posait la question pourquoi une femme avait intégré le groupe Lafarge. Donc c'était des questions qui se posaient à l'époque, c'était il y a un certain temps. Et moi je ne me posais pas du tout la question.
Mais est-ce que les filles et les femmes, il y en a beaucoup qui travaillent là-dedans ou ici en France, je veux dire? Comparé au Portugal, parce que vous disiez qu'au Portugal, quand vous étiez là-bas, vous ne vous rendez pas compte de ce constat-là, en fait. Donc, ce qui veut dire, les femmes, elles sont quand même, elles représentent quand même, quoi, dans ce métier-là, elles sont quand même là, en fait. Donc, c'est pourquoi vous ne faites pas cette différence, mais une fois venu ici en France, vous avez constaté que les femmes, elles sont moins représentées dans ce métier.
Oui, c'est un constat. Donc, dans les cimenteries, il y avait moins de femmes. Ça existe, hein, il y a des femmes, mais bon, peut-être moins dans les postes de direction.
Et aujourd'hui, mais comment on fait pour attirer ces femmes? Parce qu'il y a des femmes qui sont motivées quand même à travailler dans tout, à faire des choses même que les hommes ne peuvent pas les faire. Comment faire pour donner envie à toutes ces femmes-là de venir de dire, voilà, ce métier, il est aussi fait pour vous, en fait?
Quand elles ont envie de le faire, il faut les laisser faire.
Bonne réponse.
Il ne faut pas leur dire que ce n'est pas possible. Voilà, si elles ont envie d'être maçon, laissez-les essayer au moins pour voir si ça marche.
Non, là, je pense que la porte, elle est grandement ouverte. Hein, mais voilà, c'est comme le fait qu'on dit maintenant on va à la chasse aux jeunes, quoi, leur faire intéresser à d'autres métiers aussi. Voilà. C'était là ma question, quoi. Comment on peut faire aujourd'hui pour que les femmes elles s'intéressent à ces activités-là, dont elles ne sont pas beaucoup représentées là-dedans?
Je sais qu'en France, il me semble que dans le secteur du bâtiment, mais comme dans le secteur de l'industrie, la proportion de femmes, je crois que c'est en dessous de 20%, c'est sûr. Mmh. Je ne sais pas si c'est peut-être pas même 10%. Donc ouais. Ça veut dire que sur 100 personnes qui travaillent dans ce secteur-là, il n'y en a que 10 qui sont des femmes. Et aujourd'hui, les démarches, par exemple, le fait que la Fédération du bâtiment ait choisi des ambassadeurs et aussi des femmes, et une femme qui parlait de son métier de carreleuse sur TikTok, c'est une façon juste de dire c'est possible. Mais moi, j'ai eu l'occasion de parler avec elle, Kelly. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est.
Non, je ne la connais pas.
Et je crois qu'elle est portugaise aussi.
Ah, d'accord.
Son papa tient une entreprise de carrelage dans le nord de la France.
D'accord.
Et je crois qu'elle est portugaise d'origine.
Mmh.
Et elle m'avait dit, alors c'est vrai que c'est un métier difficile et que pour une femme aller dans ce secteur-là, il ne faut pas nier que c'est... que ça va la mettre peut-être face à certaines difficultés, ce dont vous parliez tout à l'heure, car là, peut-être que des gens vont dire « Ah, mais tu devrais pas ». Elle explique qu'elle a dû aussi discuter longuement avec son père pour qu'il accepte qu'elle souhaite d'intégrer l'entreprise, parce que lui, il voulait pas un avenir comme ça pour sa fille, quoi. Mmh. Je sais pas ce que vous en pensez, vous.
On fait beaucoup d'actions. On essaye de développer aussi des initiatives pour montrer aux filles que c'est possible. Donc, il y a des vidéos que la fédération a publiées récemment. Donc,
d'accord.
Où il y a des vidéos avec des femmes qui travaillent dans ces domaines-là. Il y a des femmes qui travaillent vraiment dans l'opérationnel du bâtiment et qui veulent montrer que c'est possible. Mm-hmm. Donc il y a beaucoup de films, de vidéos, il y a des projets qui s'orientent vers cette action-là, de montrer aux filles que c'est possible pour elles aussi d'y arriver.
D'accord, merci beaucoup Clara.
Merci
Myriam.
Okay. Voilà. Je t'en prie, je voulais vous poser une autre question Carla, parce qu'on a encore 3 minutes à passer ensemble. Comment ça se passe avec... est-ce qu'il y a de la main-d'œuvre étrangère qui actuellement vient en France pour travailler sur les chantiers? Ça se fait dans certains secteurs en difficulté. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Est-ce qu'en tout cas, vous êtes au courant de
ça? Tout à fait, oui.
Oui.
Il y a des migrants qui sont motivés pour travailler dans le secteur. Donc, les entreprises, elles essayent de les prendre aussi.
Et comment ça se passe au niveau... Est-ce que c'est des gens qui viennent d'Europe ou plutôt d'autres continents?
Je pense que c'est plutôt d'Afrique, hein, ceux qui arrivent d'Africains. Mais je ne sais pas le détail de tous les pays. Je pense qu'on a aussi d'Europe de l'Est qui arrivent aussi pour travailler dans ce secteur. Et l'avantage, c'est qu'ils sont motivés pour travailler. Donc, ils se posent moins de questions qu'ici en France. Et quand ils veulent vraiment, ils y arrivent. Hein, et les entreprises, elles ont besoin de main d'œuvre. Donc, après, il faut qu'ils apprennent la langue, peut-être pour certains qui ne parlent pas, mais...
Et aussi, il faut qu'il y ait des statuts aussi pour pouvoir travailler.
Ouais.
Ça, c'est très important aussi parce que, ouais, c'est vrai. Hein, et il y en a beaucoup, beaucoup quand même qui sont intéressés et qui font des travaux difficiles, quoi. Et que je sais que c'est pas tout le monde qui va accepter de les faire. Donc, ça, c'est des réalités à souligner aussi. Donc, voilà. Après, moi, ce qui m'a... le deuxième point auquel je voulais parler, Myriam...
Fallait pas m'éviter longtemps.
Je tourne
l'œil vers Benjamin pour savoir si c'est OK qu'on prenne du rap.
Voilà.
Il me fait signe
mais
que
tout
oui.
Tout à l'heure, au début
bon.
De la discussion, j'ai entendu que vous disiez que vous formez des gens, mais souvent, ils préfèrent aller travailler dans d'autres pays à côté parce que le salaire est mieux là-bas, en fait. Donc, en tant qu'entreprise, quelle est la position des entreprises là-dedans, en fait? Est-ce que c'est pas une perte? Est-ce qu'il faut faire en sorte, après, même c'est pas vous qui décidez sur ça, c'est de valoriser les salaires pour que, voilà, les gens que vous formez, pour qu'ils puissent rester, ça va toujours au bénéfice des gens qui les ont formés, en fait. Est-ce que vous, comment vous voyez ça, en fait?
Je ne sais pas si les salaires français peuvent être aussi élevés que les salaires en Suisse. Après, c'est vrai que le niveau de vie en Suisse, il est assez très cher. Donc, oui. Soit on est transfrontalier, on arrive à traverser la frontière tous les jours, soit... Bon, ça, après, les salaires suisses, ils vont avec le niveau de vie qui
existe
là-bas.
Mais est-ce qu'on peut dire que c'est dommage? Est-ce qu'on peut dire ça, en fait? Ou bien non? Bon, c'est pas grave, on va passer à autre chose.
Je voulais pas plomber la glace, mais je pense que c'est toujours une bonne opportunité d'aller voir d'autres cultures.
Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Non, je suis tout à fait d'accord. Mais
j'ai mon point de vue personnel, mais par mon expérience.
Non, tout à fait, tout à fait, parce que dans la discussion, j'entendais qu'il y a quand même plus de pourcentage qui allait là-bas, quoi, par rapport...
pas plus de pourcentage, mais je veux dire, on peut dire qu'il y a des personnes qui se forment en France, donc l'argent, le financement français... Ils forment ces gens-là, après ils partent ailleurs, mais bon, ça existe pas que dans le métier du bâtiment, ça existe dans tous les secteurs.
Voilà, en tout cas, je suis d'accord avec toi, il faut aller voir ailleurs, hein. Même moi-même, je viens d'ailleurs. Donc.
Pour finir, Carla, j'aimerais bien vous demander quel type de métier on peut faire, si vous avez quelques métiers particulièrement qui recrutent, pour donner aux personnes qui nous écoutent une idée un peu de ce qu'on pourrait y faire dans le bâtiment, parce que c'est vrai que c'est un mot un peu fourre-tout, et surtout quand on ne connaît pas. Et ensuite, est-ce que vous pouvez aussi nous rappeler comment on fait pour peut-être venir vous voir au campus transfrontalier, ou si on est professeur, pour organiser une visite avec sa classe? Si vous pouvez répondre à ces deux questions-là avant qu'on se quitte.
Les métiers, je pense tout ce qui est lié à l'énergie, la performance énergétique des bâtiments. Donc, ce sont des secteurs où il y aura beaucoup de travail, parce qu'il y a beaucoup de rénovations à faire dans les bâtiments existants pour améliorer la consommation énergétique, et aussi dans les nouveaux bâtiments. Donc, tout ce qui est formation liée à la gestion des énergies dans le bâtiment, liée au chauffagiste,
l'isolation.
Isolation, oui. Les nouveaux matériaux. Il y a beaucoup de formations, hein, donc c'est pas évident de dire une en particulier, mais tous les métiers liés à la consommation énergétique dans les bâtiments.
Parce que dans ce que vous dites là, c'est intéressant aussi, parce que du coup, on peut se dire que se représenter le maçon en train de porter des briques avec une truelle et du ciment, c'est pas forcément aujourd'hui travailler dans le bâtiment, ça veut pas forcément dire ça, quoi.
Si, parce qu'il manque de maçons. Donc, pour faire le bâtiment, il faut quand même le construire avant de penser à... Je veux dire, quand on conçoit le bâtiment, on pense à tout dès le départ. Mais après, dans le chantier, on va avoir toujours besoin du maçon. Et il n'y en a pas assez.
D'accord.
Après, les personnes qui vont concevoir le bâtiment, il faut qu'ils sachent aussi les différents types d'énergie qui peuvent être utilisés. Donc, est-ce que c'est une pompe à chaleur? Est-ce que ça va être du gaz? Est-ce que ça va être de l'électricité? Donc, toute cette gestion, est-ce qu'on va mettre des panneaux solaires? Cette optimisation énergétique, ce sont des métiers intéressants, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de facteurs qui jouent là-dedans.
Et comment on peut venir vous voir au campus transfrontalier, alors?
Pour venir me voir, il faut soit venir sur le stand aujourd'hui dans le salon, sinon il y a un site internet qui sera bientôt en ligne, donc... Je pense que dans les deux semaines à venir, il y aura un site où on peut m'écrire directement, et moi aussi j'ai une messagerie professionnelle.
Et vous avez déjà des pages Instagram ou je sais pas, Facebook?
Pas encore. Dès que j'ai presque finalisé le site internet, on m'a dit on passe au stade d'après, va aller faire une page Instagram pour s'adresser aux jeunes, qui c'est ce qu'ils regardent.
On attend avec impatience.
Très bien.
Oui, c'est ça. Eh bien, écoutez,
parce qu'on a envie de travailler.
Alors, donc, je le rappelle, c'était avec nous Carla Monfray du campus transfrontalier de la construction durable. Donc, bientôt le site internet, bientôt les réseaux sociaux. Merci Carla d'avoir été avec nous et d'avoir discuté un peu de ce que vous faisiez au quotidien. Merci à toi, Sana, aussi, d'avoir été avec moi pour l'animation.
Merci beaucoup. À vous. Merci Clara, beaucoup. En tout cas. Voilà.
Merci, bonne journée.
Merci Benjamin pour la technique. On rend l'antenne avec une pause musicale et ça reprendra à 13h, si mes calculs sont exacts, avec une table ronde sur les dispositifs d'accompagnement des porteurs de projets.
À midi bientôt, à midi plus tôt, non? Ouais, c'est à midi avec Jean, chargé de l'agriculture, de la filière bois et de la montagne.
Ah d'accord, oui, effectivement, Sana, tu as raison.
Ouais. Mais bon. On a beaucoup de plateaux, hein. L'essentiel, tous ces gens, ils vont passer.
Voilà, c'est ça. Voilà, on continue en direct du Forum des métiers de la transition écologique. À bientôt sur News.
News FM en mode hors les murs. La radio News FM part à la rencontre de la vie locale. Jeudi 23 et vendredi 24 juin 2022, c'est le forum des métiers de la transition écologique à l'Alpexpo Grenoble.